PU, Agence nationale de psychanalyse urbaine, développe un champ nouveau pour une science poétique de la ville et de l'urbain. Elle se propose de coucher les villes sur le divan, de détecter les névroses, les frustrations et autres actes manqués en prescrivant des solutions thérapeutiques adéquates. Laurent Petit, bonjour.
Bonjour.
Tu es venu accompagné de Charles Altorfer, qui est metteur en scène de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Bonjour Charles.
Bonjour.
Alors Laurent, comment on passe d'un boulot d'ingénieur à cette psychanalyse urbaine que tu développes aujourd'hui ?
Eh bien, tout à fait par hasard, j'ai envie de dire, puisque j'ai abandonné ma carrière d'ingénieur assez rapidement, par manque de motivation, pour essayer de devenir jongleur et clown de supermarché. J'ai échoué. Et par chance, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des recherches sur les liens entre Mickey la souris et Michel-Ange, au travers de recherches assez approfondies. Donc je me suis emparé du dossier pour le présenter. Ça a intéressé des agents du patrimoine qui ont vu là une approche assez singulière pour décrypter les territoires. Et je me suis retrouvé en cheville, même dans les jambes, avec un collectif d'architectes. Collectif existe, EXYZT, qui m'a proposé de présenter leurs travaux. Et forcément, j'ai cherché un personnage et j'ai imaginé le concept de psychanalyste urbain. Au final, un jour, quelqu'un m'a proposé de psychanalyser Vierzon. Et le processus s'est enclenché parce qu'on a dû vraiment inventer un une façon d'enquêter, j'ai envie de dire. Et pour ce faire, on a dû créer l'agence ANPU, Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine. Et c'est à cette occasion que je me suis associé avec Charles Altorfer, qui est alsacien de formation, et qui a passé son diplôme d'architecte sans vraiment pratiquer. C'est une sorte d'architecte potentialiste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de potentiel, mais il n'avait pas réussi à l'exprimer plus que ça à ce moment-là. Et on a ensemble mené les enquêtes, puis en plus lui il est un peu champion de France de Photoshop, il arrive à faire des images d'archi en quelques minutes. Et puis donc on a imaginé tout un tas de procédés pour psychanalyser les villes et aussi leur proposer des traitements. C'est pour ça que Charles est important, parce qu'il a cette capacité à imaginer des traitements urbains.
C'est lui qui fait passer la pilule ?
Oui, puis voilà, on mène ce projet depuis maintenant 4 années. On a commencé fin 2007 et puis là on a psychanalysé pour l'instant une trentaine de territoires.
Alors lesquels ?
On a rapidement au niveau des grandes villes, on est allé sur Montpellier, Marseille, la communauté urbaine de Bordeaux, Tours. Mais on s'est attaqué à des villes plus petites comme Parthenay, Béthune dans le Pas-de-Calais, Vire en Normandie. On a travaillé sur des départements entiers, la Drôme, l'Ardèche, les Côtes d'Armor, à l'étranger, à Mons, à Londres, au Danemark et en Suède.
Et avec la perspective d'une world analysis, c'est-à-dire d'analyser le monde entier à terme ?
Voilà, on cherche à psychanalyser le monde entier au travers d'un plan quinquennal, donc qui devrait voir son aboutissement le 24 décembre 2013. Ça, je pense que ça tombe un mardi à 23h devant le siège de l'ONU. Alors j'invite toujours tout le monde à venir nombreux parce qu'un vin chaud sera proposé lors de la proclamation des résultats.
Rendez-vous est pris. En attendant, la ville qui est sur le divan en ce moment, c'est la ville d'Alger, Alger-Rennes. Pourquoi le choix d'Alger ?
Alors c'est venu de la rencontre avec Julie Kretschmer, qui est également alsacienne de formation.
Mais pas architecte et moins spécialiste de Photoshop. Bonjour Julie.
Bonjour.
Et qui dirige un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Bancs Publics et qui nous avait invités à psychanalyser Marseille via le filtre de la Belle de Mai. Alors c'était en 2008. Ça avait été assez spectaculaire parce qu'on avait présenté les résultats dans l'église même de la Belle de Mai, dans une ambiance extraordinaire, d'autant qu'avec l'acoustique, personne ne comprenait un traître mot de la conférence, mais il y avait une sorte de chaleur étonnante. Hein. Ça reste un moment incroyable. Et très vite, Julie nous a proposé de psychanalyser Alger. Alors pourquoi pas, puis on a mis du temps à se lancer dans l'affaire. Puis voilà, on a réussi à mener l'enquête sur place fin octobre, en étant accompagné par Julie Kretschmer, qui a un carnet d'adresses assez énorme, qui couvre tout le bassin méditerranéen. Donc elle nous a permis trouvé beaucoup de rendez-vous passionnants.
Alors Julie, à qui tu as présenté Laurent Petit et l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine ?
Aux gens que je connaissais, et puis aux gens que je ne connaissais pas. Essentiellement, c'est par des journalistes, qui sont Adeline Mehdi, avec qui on va discuter tout à l'heure, et Mustapha Benfodi, qu'ils ont rencontré ici, et non pas à Alger. Des architectes, des artistes, un sociologue, un prêtre ouvrier, un directeur de centre culturel français, un attaché culturel d'ambassade, et puis...
On a rencontré des chefs d'entreprise. C'était assez passionnant. Ça a été assez tendu au niveau de la parole. Les gens avaient du mal à se lâcher. Puis après, ça venait. Hein. C'était intéressant. On s'est retrouvé devant une ville assez traumatisée par la terrible guerre civile qui s'est déroulée. Grosso modo, de 92 à 2005. Bon, c'est une guerre assez singulière parce qu'on n'a jamais trop su qui faisait quoi, qui tuait qui. Les Algériens disent souvent que c'était pas une guerre civile, mais une guerre contre les civils. Venue de nulle part, on soupçonne pas mal les généraux d'avoir un peu manipulé les attentats attribués au GIA, et donc ça crée une suspicion un peu partout dans la société.
Alors est-ce que vous étiez libre de vos mouvements pour ce passage à Alger, pour mener cette psychanalyse urbaine ? Ou est-ce qu'il y avait un peu des gens autour de vous qui étaient très attentifs à savoir ce que vous faisiez, avec qui vous parliez ? Julie ou Laurent ?
Ça, je peux répondre parce que j'y vais quand même assez régulièrement. C'est un peu le paradoxe de la situation à Alger, c'est qu'on est parfaitement libre de ces mouvements. C'est une des presses les plus libres du monde arabe, qui est peut-être même plus offensive que notre presse ici. Et en même temps, c'est une pseudo-dictature, l'Algérie. Mais il y a une espèce de surface, en tout cas, et dans la liberté de parole. En tout cas dans le monde arabe, c'est pas du tout un endroit où les gens, il y a une autocensure évidemment, mais on peut discuter vraiment, et dans des lieux publics, y compris dans des bars, etc. Enfin, et y a une espèce de jeu avec le pouvoir de ça. Moi, la plupart des gens que je connais se savent plus ou moins sur écoute, mais peu importe au final, c'est un espèce de rapport de force comme ça. Non, moi je ne nous ai absolument pas senti bon, d'abord on y allait par nos propres moyens. C'était pas une invitation institutionnelle, ce qui est forcément très différent. Mais pour avoir aussi travaillé via l'ambassade ou via le centre culturel français, c'est quand même des poches assez protégées. Non, moi je sais que ça se dit beaucoup, mais je trouve que c'est pas vrai.
Alors Laurent, peut-être pour continuer le diagnostic qu'on avait commencé tout à l'heure, donc un pays, une ville traumatisée par cette guerre civile récente des années 90 à en gros 2003-2005. D'autres éléments de diagnostic de cette ville d'Alger ?
Une relation d'Alger, l'Algérie avec la France qui est très particulière, très, très forte. Bon, on connaît les circonstances de la colonisation qui s'est faite dans les années 1830, hein, avec une extrême brutalité. Un massacre de à peu près un quart de la population, des scènes d'enfumade de tribus entières dans des grottes, donc quelque chose de incroyablement brutal, violent, cruel, etc. Une colonisation de peuplement, qui était à l'époque déjà politiquement une erreur déjà reconnue dans le monde politique, parce que... On savait déjà à l'époque qu'une colonisation de peuplement, c'était une catastrophe qui s'annonçait à long terme, une sorte de bombe à retardement qui finirait par exploser la figure du pays colonisateur. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que, dans le même temps, allait naître une sorte de syndrome de Stockholm, avec une forme de tendresse qui allait... naître entre eux.
Le syndrome de Stockholm, c'est quand un otage se prend d'affection pour son preneur d'otage, c'est ça ?
Oui, pour son ravisseur. Il y a une sorte de tendresse qui est très forte, qui va aller, je dirais, peut-être même vers la relation fusionnelle à un moment. Et puis, quelque part, deux sociétés qui vivent l'une à côté de l'autre, ce qui ne se mélange pas. Il n'y a pas assimilation, il n'y a pas émancipation aussi des populations locales, parce que elle reste confinée au statut d'indigène et il n'y a pas eu naissance d'un vrai projet de société typiquement algérien. Les deux sociétés ont continué à avancer l'une à côté de l'autre. Et il y a eu cet épisode de la guerre 39-45 où là carrément Alger va devenir Paris, Paris va devenir Alger parce que Alger devient la capitale de la France libre. et que à une époque où c'est la France entière qui est sous qui est colonisée quelque part par l'occupant allemand, et les populations algériennes s'engagent en masse dans l'armée française pour aider la France à se décoloniser, et résultat, 8 mai 45, ce sont les massacres de Sétif. Le jour même où on célèbre la libération, ben, et on tire, on massacre les populations algériennes qui avaient donné le coup de main pour décoloniser la mère adoptive, la France.
Ce que tu as l'air de dire, c'est qu'au fond, 50 ans après son indépendance, ces traumatismes actuels sont encore très directement liés à cette guerre d'Algérie qui est pourtant terminée depuis 50 ans.
Je ne sais pas si elle est encore... on parle encore beaucoup de guerre d'Algérie, mais les Algériens ont souvent le regard tourné vers la France. Par exemple, des élections vont être organisées en Algérie le 10 mai, mais les Algériens s'intéressent 10 fois plus aux élections françaises qu'aux élections algériennes.
Pourquoi, à ton avis ?
Parce qu'ils restent attachés à la France et le syndrome de Stockholm.
Bah, au-delà de ça, et puis qu'il y a des, il y a des tas de relations, ne serait-ce que migratoires, extrêmement fortes, extrêmement problématiques. Il y a des tas de familles qui vivent d'un côté et de l'autre, et dans des endroits de stabilité très friables. Enfin, Marseille en est l'exemple absolu, de gens qui ont travaillé 30 ans ici, qui ont construit une maison dans laquelle les enfants n'iront jamais. Donc c'est une histoire qui... Enfin, ce que disent les Algériens, c'est que l'histoire de la relation, elle s'écrit au présent et de façon continue. Au-delà de la question de l'attachement, c'est une espèce de rapport très aimanté, en fait, très violent, très conflictuel. Mais les liens humains sont extrêmement forts. Enfin, il n'y a qu'à voir comment Marseille résonne de ça très singulièrement.
Laurent, est-ce que tu as l'impression d'avoir compris la ville d'Alger ? Alger, je vous ai compris.
Pas encore tout à fait. Bien sûr que non. Il reste beaucoup de points à élucider. Puis c'est une énigme sans fin, j'ai l'impression. Bon, nous, demain, on va proposer une interprétation. Et puis on va continuer à la... J'imagine à l'améliorer, à la modifier, suivant les retours qu'on va recevoir après cette présentation.
Alors je te propose maintenant qu'on aille justement faire un petit tour à Alger, du moins via le téléphone. On va aller rencontrer Adeline Mehdi. Adeline Mehdi, bonjour.
Bonjour.
Tu es rédacteur en chef de El Watan Weekend, tu es aussi, je crois, auteur de romans policiers notamment, dont un d'entre eux est édité ici, il s'intitule « La prière du mort ». Et je crois que tu as reçu, mais très récemment, de la part de Laurent Petit et de l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, quelques éléments d'analyse de la ville d'Alger. Alors j'aurais voulu, peut-être pour commencer ce petit entretien, avoir ton retour sur ces éléments d'analyse de la ville d'Alger. Qu'en penses-tu ?
Ben écoutez, c'est toujours compliqué de parler de sa propre ville, parce que en général, on la vit sans la réfléchir. Et donc on a toujours, c'est toujours un plaisir, une curiosité un peu bizarre de retrouver un regard autre. J'ose pas dire étranger, autre. Non, parce que le problème, on l'a déjà vécu avec d'autres amis, par exemple des amis photographes qui sont venus d'Égypte, ou d'autres amis journalistes qui viennent du monde anglo-saxon, et tout le temps il faut toujours attention, ils nous disent ah non, on veut pas tomber dans l'exotisme, on veut parler de ça et pas ça. Le problème c'est que même si moi je vis ici à Alger, même moi je tombe beaucoup dans l'exotisme, parce que c'est une ville assez compliquée à appréhender, voilà.
Alors, à l'instant, Laurent Petit évoquait quelques-uns des éléments de son analyse, et notamment l'un d'entre eux, le fait que la ville d'Alger était encore très largement aujourd'hui traumatisée, en tout cas affectée par la guerre civile qui a eu lieu dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000. Est-ce que tu partages son analyse ?
Oui, encore plus, bien sûr, parce que vous l'avez tout à l'heure rappelé, moi j'ai écrit un polar qui se passe, enfin deux polars qui se passent à Alger, et j'ai toujours appréhendé Alger comme une sorte de champ de bataille. Elle s'y prête à des ambiances comme ça, de souricières, avec sa pente, tous ses labyrinthes et les raccourcis. Bien sûr, c'est pas le Beyrouth où on voit les bâtiments criblés de balles, c'est pas du tout ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. On sent qu'il y a toujours une tension, parce que je rappelle que Laurent, il parle des années 90, mais en même temps, on peut aller très loin. On peut aller même dans les années, la fin des années 50 et début des années 60, lorsque Alger était le terrain de la bataille d'Alger, lorsque Alger était le terrain des exactions de l'OAS, où on avait des plastiquages chaque nuit. Donc Alger a ce côté-là de champ de bataille, ce qui est complètement anachronique avec son côté ville maritime, ouvert sur la mer, ce paradoxe-là qui crée cette beauté et cette tension en même temps. Parce que Alger est belle parce que c'est une ville en pleine tension.
Alors, tu évoquais à l'instant les années 50, les années 60, 1962-2012, cinquantenaire de l'indépendance d'Algérie, et pour autant, pas de commémoration, pour autant, pas de rapprochement significatif entre la France et la République d'Algérie. Comment est-ce que ce silence assourdissant est perçu à Alger ?
Écoutez, je parle de la version officielle, hein. Officiellement, nous allons commencer nos commémorations, nous, les Algériens, à partir du 5 juillet 2012 jusqu'au 5 juillet 2013. Il y a une sorte de décalage dans la date, parce qu'il y a une sorte de gentleman agreement entre Paris et Alger, dans le sens où ils ont dit à Paris, faites votre truc le 19 mars, comme ça, faites les commémorations, vos machins, etc. Et nous, on va les faire après. Parce que dans les deux pays, il y a une ambiance électorale. Nous avons des législatives assez tendues. En France, il y a une présidentielle qui, malheureusement, après l'affaire de tueur du scooter à Toulouse, a pris des connotations autour de l'immigration, des Algériens, de l'islam, etc., qui font rappeler, bien sûr, des souvenirs assez compliqués. Et donc... il y a eu un accord entre les deux pays pour décaler les commémorations de manière à ce que, comme l'a dit Juppé au début de l'année, que les commémorations soient fêtées dans la sérénité. Et c'est une manière assez diplomatique pour dire que, essayons de faire commémorer ces événements assez traumatiques, y compris en France et en Algérie, de manière plus sereine. Enfin, sereine, ça veut dire ne pas poser les vraies questions.
Laurent Petit.
Salut Adeline.
Salut Laurent.
Je voulais te poser deux questions. Je voulais savoir s'il y avait un événement commun qui est prévu entre la France et l'Algérie pour commémorer ce cinquantenaire. Et je voulais aussi savoir comment se présentaient les élections en Algérie le 10 mai, je crois.
Alors, des événements communs, il n'y en a pas. Chose que, entre nous, la société civile algérienne, c'est-à-dire les associations, des cinéastes indépendants, des intellectuels ont vraiment voulu essayer de profiter de ce cinquantenaire pour essayer de concrétiser des ponts qui existent entre l'Algérie et la France, qui sont très forts, de manière artistique ou culturelle, ou par exemple, je ne sais pas moi, des coproductions, des plateaux communs, des éditions de livres entre éditeurs algériens et français. Tout ça, ça n'a pas eu lieu. Voilà, le pouvoir ici, le régime ici... vous savez, l'histoire officielle, elle est aussi présente en France qu'en Algérie. Donc, c'est pas que l'histoire. Il y a des enjeux politiques derrière. Maintenant, concernant l'enjeu des prochaines élections, c'est assez compliqué parce que, en fait, pour dire les choses assez crûment, ces élections ne seront qu'une sorte de grosse farce. Une grosse farce. Juste pour dire... à nos amis américains et surtout à nos amis américains et à l'opinion internationale que voilà, en Algérie, les gens votent, qu'il y a une véritable représentation de tous les courants. Donc, après le 10 mai, ce qui va se passer comme ça en scénario, c'est qu'on va avoir un parlement avec des nationalistes, des démocrates laïcs, des islamistes et des gens de gauche. Il y aura des quotas très très précis, toujours de l'opposition, mais ça veut absolument rien dire parce que de toute façon le Parlement ici n'a aucun poids. Parce que le vrai pouvoir n'est pas ni dans l'exécutif, ni dans le législatif. Voilà, c'est juste une belle vitrine qu'on veut proposer dans un contexte de révolution arabe pour dire « Ah oui, nous aussi on a compris, donc on va réformer rapidement. » Et en 2 mois, on va agréer 20 partis, alors que depuis 1999, pour rappel, l'agrément du nouveau parti était complètement interdit. Et voilà, c'est malheureux, mais c'est une sorte de grosse comédie qui se joue ici.
Donc le vrai pouvoir en Algérie, il n'est pas dans l'exécutif, il n'est pas dans le Parlement. Où est-il, Adlène ?
De manière très folklorique, surtout... On parle toujours du pouvoir militaire en Algérie. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une sorte de réseau entre des militaires puissants, des hommes d'affaires, certains clans et tribus, parce que le tribalisme aussi en Algérie est très présent jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un système comme ça, informel et complexe, qui gère ses intérêts... au dépend même du pays, on le voit ici tous les jours, hein. On le voit de manière assez visible dans l'économie, dans la fonction publique, dans la nomination des généraux, des choses comme ça. Et il n'y a pas une véritable gouvernance. Et ça pose vraiment un problème.
Julie Kretschmar évoquait le fait que la presse en Algérie était une presse libre. Tu es rédacteur en chef de El Watan Weekend. Est-ce que tu as le sentiment que tu mènes ton métier d'une manière parfaitement libre ?
Oui, pour le moment, oui, parce que...
Adlène Mehdi.
Moi, je ne parle que de ce que je connais le plus, c'est-à-dire l'entreprise El Watan, où je bosse. Le régime, avant, dans les années 90, il avait trouvé justificatif dans la violence islamiste pour nous dire... attention à ça, attention à ci, il y a des lignes rouges, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas faire parler un tel, etc. Mais à partir des années 2000, il a changé d'optique parce qu'il ne pouvait plus exercer ses pressions contre la presse de manière violente. Il a trouvé une nouvelle technique, un peu une technique comme Poutine fait en Russie, c'est-à-dire l'étranglement financier des journaux à travers... vous savez, en Algérie, nous avons des imprimeries, toutes les imprimeries de journaux appartiennent de l'État. Et quand El Watan a acheté une imprimerie d'Allemagne, on a eu un blocage au port pendant 6 mois. Lorsque El Watan a décidé de prendre son indépendance au niveau de la publicité, ça a été un combat de 10 ans, parce que la publicité reste un monopole d'État ici. Donc nous subissons énormément de pression financière maintenant, parce qu'au niveau de la communauté internationale, l'État algérien, le pouvoir algérien ne peut plus se permettre de se donner l'image d'un pouvoir répressif, anti-média et tout. Donc il utilise d'autres petits chemins comme ça pour étrangler la presse. Et malheureusement, ça a marché dans beaucoup de cas. Mais pas dans le cas d'El Watan, parce qu'on continue à faire des enquêtes, on continue à essayer de faire des enquêtes, nous avons fait éclater plusieurs scandales, notamment le scandale de Sonatrach. C'est la plus grosse boîte du pays, c'est elle qui gère le pétrole algérien. Et on a fait éclater des tabous, comme par exemple le plus gros tabou ici en Algérie, c'est une relation avec le Maroc. Nous, on a travaillé sur ça. On a essayé de sortir de la doxa que le Maroc soit le plus pire ennemi de l'Algérie, alors que c'est une bêtise complètement désastreuse. Pour résumer, oui, l'État, il essaie de nous étrangler financièrement, mais heureusement que parfois le capitalisme algérien réussit un peu à nous sauver. C'est une contradiction que personne ne comprend pas en Europe, mais pour nous, c'est quelque chose de bon de sortir des ressources financières de l'État. Thank you.
conversation nous donne l'occasion d'évoquer avec toi peut-être quelques éléments de l'actualité internationale. Ton regard sur ce qui est en train de se passer en ce moment au Mali, Adeline ?
C'est une grosse source d'inquiétude. Immense. Immense. Parce que, en fait, l'Algérie, de manière officielle, s'est engagée depuis les années 90 pour être une sorte d'acteur principal entre les rebelles Touareg et Bamako. D'ailleurs, en 94, quand il y a eu le premier cessez-feu, c'est l'Algérie qui était garante du cessez-feu. En 2006, quand il y a eu la deuxième grande révolte Touareg, c'est l'Algérie qui a été garante des accords de cessez-feu. D'ailleurs, on les appelle les accords d'Alger en juillet 2006. L'Algérie s'est beaucoup engagée dans cette région parce que c'est une région frontalière, c'est une région assez instable parce qu'il y a des groupes islamistes terroristes qui sont sur place, dont la plupart des chefs sont d'origine algérienne. C'est une région où il n'y a pas de présence d'État, ni du côté algérien, ni du côté malien. Et ce qui se passe là avec la possible et inquiétante partition du Mali nous rappelle un peu ce qui s'est passé au Soudan avec la partition du Soudan, et qui a créé beaucoup de tensions autour de ressources d'énergie, autour des ethnies, des minorités. Et surtout pour les Algériens, ce qui les inquiète le plus, c'est que ça ouvre la voie à une intervention étrangère. Et franchement, moi je suis très inquiet par ça, d'autant plus qu'on parle de l'installation d'une sorte d'émirat islamiste à nos frontières, et ça c'est un peu ironique pour un pays qui a combattu les islamistes armés, qui a quelque part triomphé d'eux à la fin des années 2000, et 10 ans plus tard on se retrouve avec un émirat islamique dans le sud. C'est quelque chose de très inquiétant pour toute la région en fait.
Laurent Petit.
Je me demandais, en t'écoutant Adeline, si en Algérie, il y avait une opposition qui s'organisait, ou c'est pas encore dans les clous, où il n'y a pas grand-chose qui se dessine, ou il n'y a peut-être pas moyen d'organiser une opposition.
Pour l'opposition, c'est un problème très, très complexe, parce que logiquement, une opposition est née d'une société civile qui est déjà organisée, articulée autour de besoins bien précis. Le problème chez nous, ici en Algérie, c'est que, à cause de la courte histoire de ce pays, c'est-à-dire dans le sens république et État et administration, etc., on n'a que 50 ans d'existence. Et depuis le début des années 60, depuis l'indépendance, la société civile a été complètement ingurgitée par l'État. Parce que même les pires opposants contre le régime algérien, ils avaient une seule option et une seule priorité. C'est quand même, on va faire avec, même si ce pouvoir est pourri, corrompu, etc. On va faire avec parce qu'il y a quelque chose qui dépasse cela, c'est de construire un pays, de faire des universités, de soigner des gens, parce que voilà, la société civile et tous les opposants, même de gauche, étaient très, très opposants au pouvoir, mais ils disaient qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que le pouvoir, c'est de reconstruire l'Algérie. Et ce réflexe-là est resté jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à articuler une véritable opposition, même dans les années 2000. D'autant plus que, je ne sais pas si c'est utile de rappeler cela, mais la colonisation française de l'Algérie a complètement détruit toutes nos structures sociales. Par exemple, il existait avant une bourgeoisie algérienne, une grosse communauté juive andalouse et berbère algérienne qui occupait des postes très importants dans le commerce et dans l'administration du temps des Ottomans. Et tout cela a été rasé par la présence coloniale qui avait une logique de celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et donc on s'est retrouvé en 62 avec une déstructuration sociale assez terrible. On n'avait plus d'élite bourgeoise, on n'avait plus d'élite pensante. Ceux qui avaient du métier ou qui avaient fait des études étaient en immigration en France, et donc on s'est retrouvé pendant 40 ans à fabriquer des oppositions très fragiles que l'État pouvait apprivoiser très très rapidement en leur disant, si vous vous opposez à nous, à l'État, l'État militaire, pétrolier, etc. Vous êtes contre l'Algérie. Et donc ça a créé un handicap très profond. Du coup, maintenant, au niveau de l'opposition, je ne sais pas si Laurent est d'accord avec moi, mais c'est beaucoup plus dans les mouvements sociaux. Par exemple, on a des mouvements de jeunes chômeurs dans les régions pétrolières qui disent ne pas comprendre comment ils vivent dans des zones pétrolières très riches et qui se retrouvent tous au chômage. Nous avons aussi des mouvements parcellaires dans l'enseignement, dans la santé, mais comme il n'y a pas de grosse convergence et comme l'État a pour le moment des moyens financiers pour répondre à ces demandes pressantes, parce que l'Algérie est un pays très riche, je rappelle juste un chiffre, c'est qu'on a 188 milliards de dollars de réserves de change. Ça fait rêver. Et l'État, il puise dans cette caisse pétrolière pour répondre de manière factuelle aux demandes sociales et pour éteindre les feux sociaux un peu partout. Donc ces deux handicaps, le fait que la société civile ne s'est pas assez séparée de cette idéologie de l'État-nation algérien, il ne faut pas toucher à l'Algérie, etc. Et le côté on achète facilement la paix sociale, ça a énormément handicapé la naissance d'une véritable opposition crédible et populaire.
Je crois que pour la NPU, pour la psychanalyse qui est mise en œuvre dans la NPU, c'est une psychanalyse à tendance lacanienne, donc qui s'intéresse beaucoup aux questions de langage. Peut-être Laurent Petit, sur la question du langage, de l'arabisation, il y avait quelque chose dans ton analyse à propos d'Alger ?
Moi j'aimais bien la notion d'île à El Jazeera, si je prononce bien. Le fait que le fait que Alger s'appelle les îles et que quelque part il y a peut-être une dimension insulaire généralisée en Algérie, c'est-à-dire que à la fois c'est le Maghreb, c'est une île entre la mer Méditerranée et la mer de sable, et que peut-être l'Algérie c'est une somme d'îles, c'est une sorte d'archipel d'îles plus ou moins entremêlées, et que ça forme pas forcément une unité. Quelque chose de très homogène. Donc le problème aussi de l'Algérie, c'est le concept de nation. Comment tu sens par rapport?
Tu sais Laurent, ça c'est un immense tabou ici dans ce pays. Et tu fais bien de parler d'insularité et de fraction entre les différentes parties de la nation. Parce que nous, je dis nous extraits. Pour dire nous, les Algériens, l'État, j'englobe un peu de tout. Nous sommes unis, nous sommes nés en tant que pays, en tant que nation, sous une violence. C'est-à-dire que c'est la violence coloniale qui nous a obligés à oublier la notion de tribu, territoire, et de se dire que nous sommes tous face à un gros problème qui a duré un siècle et 32 ans, et nous sommes construits contre. Nous ne nous sommes pas construits, on s'est construit contre.
Oui.
Et le fait de se construire contre et d'avoir mobilisé autant de, sur le plan historique, autant de combats, de résistances, de révoltes, après de révolutions et de guerres d'indépendance, et qu'en même temps qu'on a mobilisé autant de mythes autour de l'unité de la nation algérienne, je rappelle ici un slogan du FLN en 62, un seul héros, le peuple. On avait toute cette mythologie de l'unité parce que justement on ne l'avait pas.
Oui. Oui.
Parce que le problème de ce pays-là, c'est le même problème qu'avaient rencontré les premiers conquérants militaires français entre les années 1830 et les années 1870. C'est-à-dire qu'ils pensaient conquérir une régence turque bien organisée, qui contrôle très bien, que le fait d'avoir fait tomber la régence turque à Alger, Oran et Constantine, le pays va va se mettre à genoux. Et en fait, non, ils ont découvert qu'en fait, il y avait plusieurs pays. Et il y avait la régence turque, nos amis pirates, oui. dont ils parlent, dont Laurent parle de manière assez, assez sympathique d'ailleurs. Mais il y avait aussi les tribus, mais il y avait aussi les confréries religieuses, mais il y avait aussi une profondeur africaine, mais il y avait aussi nos liens avec le royaume du Maroc et les Hafsides en Tunisie. Oui. Il y avait comme un pays à souche. Et ce pays à souche, quelque part, même l'indépendance, même l'État jacobin qu'on a hérité des Français après 62, même ce système-là n'a pas pu contrôler. Donc l'Algérie reste une manière de, une fédération d'îles très différentes. Juste pour l'anecdote, comme moi j'habite la banlieue d'Alger, quand je vais dans le sud algérien, on nous appelle les nordistes.
Ouais.
Pour eux, on n'est pas de là-bas. On est vraiment des étrangers et non pas des gens qui habitent une région lointaine d'eux, mais qui se trouveraient en Algérie. Non, nous sommes des étrangers. Si je pars à Tamil Rasset, je fais Alger Tamil Rasset, je traverse deux trois pays différents.
Ouais.
Que l'État n'a pas réussi quelque part à unifier, parce qu'on a beaucoup de mouvements communautaires. On a beaucoup de confréries, on a beaucoup de rites religieux, culturels, hyper, hyper différents. Même à Alger, nous avons des chiites à Alger. Nous ne sommes pas tous sunnites à Alger. Nous avons le Husseinites, ce qu'on appelle le Husseinites ici à Casbah. Nous avons des Ibadites très puissants ici à Alger. Nous avons des confréries Gnaoui, qui datent de plusieurs siècles. C'est des anciens esclaves que les princes berbères avaient déportés ici en Algérie pour leur service, distributeurs d'eau, gardiens de harem, etc., etc. Donc nous sommes dans une sorte d'insularité qui, dans l'état-nation qu'on a essayé de construire depuis 62, n'arrive pas vraiment à, non pas à assimiler, à ingurgiter, mais n'arrive même pas à l'imaginer, à le comprendre, à en faire une force.
Oui, oui.
Et ça se voit beaucoup dans la langue.
Eh bien, Adeline, merci beaucoup pour cet échange. L'insularité marseillaise salue avec beaucoup de chaleur l'insularité algéroise. Merci d'avoir passé quelques instants en notre compagnie. Alors, Laurent Petit, cette psychanalyse urbaine d'Alger, algérienne, elle est présente à Marseille. Là, ces jours-ci, peut-être d'autres moments, d'autres rendez-vous, et j'imagine sans doute un espoir, une perspective qu'on puisse l'entendre à Alger.
Oui.
C'est Julie qui répond. Julie.
Sur la perspective de retour à Alger, j'avais quand même un peu alerté Laurent et Charles la première fois qu'on y est allé, que je pensais que c'était important de dissocier un temps d'enquête à Marseille, de rendre le travail à Marseille et après de retourner à Alger. C'est peut-être en tirant le fil de mon expérience à moi, qui est d'y être allé un certain nombre de fois avant, non pas de se confronter, mais de proposer quelque chose à du public, sachant que, à part le Centre culturel français, ce qui est quand même très paradoxal, aucune autre structure n'est envisageable, puisque les autres sont étatiques. Donc ça prend un petit peu de temps, mais grâce à Adeline Midi, merci. Non, il est probable quand même que le fait que ça soit un peu relayé, ça nous facilite un peu la tâche.
Merci beaucoup à tous, Adeline Midi au téléphone depuis Alger. Et puis,
salut Adeline.
Salut.
Salut.
Et puis ici, dans le studio du Grenouille, Julie Kretschmar, Laurent Petit, puis Charles Aldorfer, pour à la fois les bancs publics et puis la NPU. La NPU dont vous pouvez retrouver tous les travaux et les évolutions sur son site internet. Laurent, tu nous rappelles l'adresse ?
NPU.fr.
Merci beaucoup. Et merci à Djibali Amish pour la technique de cette émission. I'm gonna sit in the center.